Avec nous au téléphone, Judith Bastien du Bureau d'aide et d'information sur le logement adapté Région de la Mauricie. Madame Bastien, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Bon, si vous nous parliez un peu de ce que fait le Bureau d'aide.
La mission première, bien ça pourquoi Bail Mauricie a été mis sur pied, c'est d'aider les personnes handicapées à se trouver un logement. Donc, on a quelqu'un ici 4 jours semaine qui fait de la recherche de logement à la place des personnes handicapées.
Mm-hmm.
Et quand vient le temps de... Quand elle pense qu'elle a trouvé ce que cherche la personne, il reste à la personne handicapée elle-même d'aller faire la dernière visite et de signer le bail.
Mm-hmm. Et évidemment, je vais poser la question, mais je pense deviner la réponse. Est-ce que la ressource est suffisante en région mauricienne?
Bien, je vous dirais pour le moment, oui. Là où c'est insuffisant, c'est parce que Bail Mauricie a développé une deuxième activité, si vous voulez.
Mm-hmm.
Parce que le CA s'est dit qu'une personne handicapée a beau être en logement, mais s'il n'est pas capable d'aller à l'épicerie, à la pharmacie, à la banque, ça ne règle pas son problème. Donc, Bail Mauricie a développé tout ce qui s'appelle l'accessibilité universelle des lieux publics.
Mm-hmm.
Là, il y a beaucoup de travail à faire.
Oui,
dirais même énormément.
Mais l'enjeu est important parce qu'en bout de piste, c'est une vraie autonomie par rapport à, finalement, une semi-institutionnalisation.
Bien, c'est ça. Si moi, je suis en appartement, je suis en fauteuil roulant, mais si je n'étais pas capable d'aller faire mes courses moi-même, j'aurais toujours besoin de quelqu'un à quelque part pour m'aider, même si je suis capable de me débrouiller toute seule en appartement.
Mm-hmm.
C'est pour ça que Bail Mauricie a développé cet aspect-là. Parallèlement à ça, quand en 2005, les villes ont été obligées d'avoir des plans d'action selon la loi pour l'intégration des personnes handicapées, nous, on est allés cogner, c'est-à-dire à la porte de la ville, pour leur dire « ça vous prend des personnes handicapées sur votre comité ». Et eux, ils sont virés de bord puis ont dit « ça vous intéresse-tu ». Fait que avec eux, il y a une très belle collaboration pour ce qui s'appelle de l'accessibilité universelle.
Mm-hmm. Non, effectivement. Si on parle du parc de logements, c'est quand même un sujet qui bouge beaucoup ces temps-ci, notamment
oui.
Parce que le gouvernement fédéral a fait connaître sa nouvelle politique.
Oui.
On parle de quoi pour améliorer la quantité et la qualité des logements disponibles?
Bien, de ce côté-là, les logements, c'est sûr qu'il en manque toujours. On a une liste d'attente, nous, ici, d'une quinzaine de personnes qui roulent tout le temps. Là. C'est des logements, premièrement, qui sont accessibles. La majorité de nos clients sont à faible revenu.
Mm-hmm.
Et ils sont aussi à mobilité réduite. Donc, on ne peut pas chercher d'un deuxième étage ou d'un demi-sous-sol pour eux. Il faut que ce soit vraiment accessible. Au moins 3 marches et moins. Là.
Mm-hmm.
Et après, c'est à eux de faire les démarches pour le faire adapter. Mais encore faut-il que ce logement-là soit adaptable. Si la salle de bain est tout petite, ça ne règle pas le problème.
Mm-hmm.
Dans les nouvelles constructions, ma collègue me disait qu'il y a beaucoup de bains podiums. Ça aussi, c'est une grosse difficulté. Donc, là, il y a beaucoup de travail à faire. Faudrait qu'aussitôt que quelqu'un rénove un logement, un propriétaire ou que la ville met sur pied des blocs de logements sociaux, faudrait absolument qu'au moins le rez-de-chaussée soit accessible.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a de la réticence de la part des propriétaires d'immeubles ou les gens sont assez ouverts à l'idée d'accueillir une clientèle handicapée?
Ça dépend. Il y a certains types de handicap que oui, il y a encore des préjugés. Il y a quelques années, ça fait pas si longtemps que ça, une personne handicapée intellectuelle, on nous demandait, elle va pas mettre le feu à notre logement, là. Ça existe encore malheureusement. Il y a aussi une réticence côté quantité de travail à faire et est-ce que la personne handicapée va être beaucoup demandante par rapport à des petits travaux dans la maison, des choses comme ça. Mais on réussit quand même pas pire à s'en sortir.
Mm-hmm. Et est-ce que votre organisme appuie comme tel les gens en résidence, justement pour des questions de travaux, là? On pense par exemple de peinture ou de déménagement?
Non, on n'est pas de ce côté-là. Par contre, si on sait qu'une personne handicapée cherche un logement et qu'elle peut être vulnérable, qu'elle peut se faire avoir, on peut l'accompagner jusqu'à la signature du bail et peut-être remplir les formulaires pour faire adapter le logement. Mais autrement que ça, non, on va pas plus loin. Fonds de financement, bien sûr.
Arrive-t-il que des propriétaires ont des règlements complètement excessifs par rapport aux personnes présentant un handicap?
Ce qu'on a vu de ce côté-là, c'est que le propriétaire, parce que le logement est adapté, qui a été rénové, bien, il remonte le coût du loyer.
Ah oui, selon la règle des 6 %.
C'est ça, c'est ça. Fait que ça, c'est une difficulté aussi, parce que comme je vous ai dit tantôt, personnes handicapées, la majorité sont à faible revenu.
Mm-hmm. Les propriétaires, eux, est-ce qu'ils ont un support financier pour les aider à adapter un logement?
Oui, il y a des subventions de la Société d'habitation du Québec, programme d'adaptation de domicile. Je pense que le maximum est de 16 000 $ Moi, okay. Je pense, c'est sûr.
Donc, c'est
16 000 d'une part, pour faire adapter.
D'une part, ça leur est payé par Québec et d'autre part, ils vont tenter de le récupérer quand même de leur nouveau locataire.
Ben oui.
Mm-hmm. Je m'en voudrais qu'on termine sans parler de financement, parce que votre organisme, à l'image de bien des organismes du genre, est tributaire de financement.
Oui.
Il y a des activités chez vous pour vous aider, pour vous supporter?
Oui, on a une activité bénéfice majeure qui se déroule à tous les mois de juin. Mais c'est la première fin de semaine de juin. C'est un festival country pendant 4 jours. Ça fait 10 ans. Au mois de juin 2017, c'était le 10e anniversaire, et on avait réussi à amener sur le terrain plus de 350 véhicules récréatifs avec des gens amateurs de country. Mm-hmm. Et pendant 4 jours, il y a de la musique country avec des chanteurs sur scène qui tour à tour font leur tour de chant. Là. Mm-hmm. Et ça permet à l'organisme d'aller chercher entre 20 et 25 000 $ par année.
Oui, sans parler du fait qu'il s'agit quand même d'une socialisation puis d'une sensibilisation assez extraordinaire.
Oui.
C'est un vivre ensemble.
Parce que les deux personnes, moi, coordonnatrice, et le président, François Dubois, on est tous les deux en fauteuil roulant.
Mm-hmm.
Donc, pendant l'activité, ils nous voient aller sur le terrain, puis ils voient qu'on est capable de faire des grandes affaires quand même. C'est de la sensibilisation de ce côté-là aussi. Là.
Eh bien, Mme Bastien, je vous souhaite bonne chance
dans
vos activités, puis je suis convaincu que ça va durer encore très longtemps.
Ben oui, sûrement, avec les besoins. Là.
Alors,
merci beaucoup.
Bonne fin de journée, au revoir.
Vous aussi, bonjour.